Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes toujours au chapitre 13 de Saint Matthieu. Donc sur le polycopier est le troisième, celui qui couvre les chapitres de Saint Matthieu 11 à 15. Nous sommes à la page 23, donc nous suivons les pères dans l'explication de cette belle parabole de l'ivraie et du bon grain. Donc je vous rappelle le thème, donc un homme, un propriétaire terrien, avait planté du grain dans son champ, et pendant que les travailleurs dormaient, eh bien l'ennemi est arrivé et a mélangé de l'ivraie au bon grain. Alors, au moment où les plantes sortent de terre, les travailleurs, les ouvriers se rendent compte que de l'ivraie a été mélangé au bon grain. Alors, ils proposent au maître d'arracher le l'ivraie, de séparer dès maintenant l'ivraie et le bon grain. Mais le propriétaire du champ refuse. Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Nous allons voir, en suivant les pères de l'Église, que cette belle parabole, en fait, représente à la fois la miséricorde et la justice de Dieu. Miséricorde de Dieu parce que le bon Dieu accepte que dans son royaume ici-bas, sur la terre, dans l'église qu'on appelle l'église militante, il y ait un mélange entre les pécheurs et les bons catholiques. Et le bon Dieu ne condamne pas tout de suite les pécheurs, il leur laisse un temps pour se convertir. C'est pour cela qu'il ne veut pas, dès maintenant, arracher l'ivraie et la jeter en botte dans l'enfer qui ne s'éteint jamais. Il attend pour leur donner une chance de conversion. Donc là, le symbole de la miséricorde du bon Dieu, mais en même temps, il prévient qu'à la fin, lorsque le temps de la moisson sera venu, il faudra à ce moment-là arracher l'ivraie qui n'a pas voulu changer, qui n'a pas voulu se convertir, la lier en botte et la brûler, puis amasser le blé dans le grenier. Donc là, ça représente la justice. Alors voilà ce que disent les pères. Nous en sommes au milieu de la page 23 sur le polycopier. Dieu, disent les pères, veut laisser le temps au repentir et il nous enseigne à ne pas nous hâter de retrancher nos frères de la communion des fidèles. Car il peut arriver que celui-là même, dont l'esprit est perverti par une erreur dangereuse, se convertisse et devienne un zèle défenseur de la vérité. Ainsi les défenseurs de la vérité. C'est pour cela qu'il ajoute de crainte qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le froment. Donc Dieu ne se presse pas pour excommunier des gens, parce qu'encore une fois, il y a toujours l'espoir pour lui que le pécheur se convertisse et revienne à Dieu. Regardez le cas de ces magnifiques conversions, dont certaines sont déjà dans l'Évangile. Prenez exemple, par exemple, de la conversion de Zachée, l'époux de Sainte Véronique, l'homme qui était trop petit et qui était monté sur le sycomore, qui s'est converti, qui est devenu Saint Zachée. Prenez l'exemple de Sainte Marie-Madeleine, qui de femme publique est devenue une des plus grandes saintes de l'histoire de l'Église. Donc le bon Dieu donne justement le temps de se convertir. Il demande donc de ne pas se hâter de retrancher nos frères de la communion des fidèles. Bon, bien sûr, dans certains cas, il faut savoir même, dans certains cas, aller jusqu'à refuser les sacrements à quelqu'un qui ne veut pas se convertir. Et pour reprendre l'exemple de ces sacrements qu'on refuse à certains pécheurs, il faut se rappeler qu'on n'a pas le droit en tant que prêtre de refuser de donner les sacrements à quelqu'un qui n'est pas un pécheur public. On peut refuser les sacrements à un pécheur privé, mais pas à un pécheur public. Je veux dire, c'est l'inverse. Pardon. On doit refuser les sacrements à un pécheur public, mais pas à un pécheur privé, sauf en privé. J'ai déjà expliqué ces choses-là, mais il faut que les choses soient claires, encore une fois. Il y a parfois dans la fraternité Saint-Pédis, ça devient de plus en plus odieux, où des prêtres de la fraternité Saint-Pédis se permettent de refuser publiquement la confession, la communion, même à des enfants, sous prétexte que leurs parents sont cédévacantistes ou que leurs parents suivent la ligne, par exemple, de Mgr Williamson. Donc, ils les traitent exactement comme s'ils étaient des pécheurs publics. Eh bien, ce n'est pas, à ma connaissance, un péché public que d'être cédévacantiste, quand même. C'est une, plus qu'une opinion théologique, c'est une conclusion théologique qui est quand même extrêmement fondée sur du réel. Alors, puisque notre Seigneur Jésus-Christ pratique cette miséricorde extraordinaire, c'est le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour les malades, pas pour les bien portants, et bien puisque notre Seigneur Jésus-Christ pratique cette miséricorde, et bien il faut que nous, fidèles, et bien sûr nous ces prêtres, et nous pratiquions aussi cette miséricorde à l'égard du pécheur repentant. Notre Seigneur Jésus-Christ est plein de miséricorde à l'égard du pécheur repentant, à l'égard du pécheur qui ne veut pas se convertir, sur le père de manche. Mais même à l'égard du pécheur qui ne veut pas se convertir, le bon Dieu donne du temps pour lentement aider ce pécheur à retrouver le bon chemin, le chemin qui mène au paradis. Bon, si au moment de la mort, jusqu'au moment de la mort, cette personne ne veut pas se convertir, alors à ce moment-là, le bon Dieu sera obligé d'arrêter d'utiliser la carotte et utilisera le bâton. C'est triste, mais c'est comme ça. Cette réponse, disent les pères de notre Seigneur, donc, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le froment, cette réponse est des plus propres à calmer et à inspirer une grande patience. Le père de famille répond de la sorte parce que les bons, qui sont encore faibles, ont besoin de certaines circonstances d'être mêlés aux méchants, soit afin que ce mélange serve d'épreuve à la vertu, ou afin que ce rapprochement soit pour les méchants une exhortation puissante à devenir meilleur. Bon, c'est sûr qu'il faut pratiquer la vertu de prudence, mais dans bien des cas, des pécheurs se sont convertis justement en voyant l'exemple de charité donné par les bons. Bon, il est vrai que dans certains cas aussi, l'inverse peut arriver, hein, que des bons puissent être convertis, puissent être détériorés et détournés de la vérité par les méchants. Mais on voit cette exquise charité de notre Seigneur Jésus-Christ, cette exquise charité de ce père de famille, donc le maître du champ, cet homme qui avait semé du bon grain dans son champ, c'est le père de famille par excellence. Le père de famille par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ, justement, par sa vertu de charité, donc exhorte les méchants à devenir bons et les bons à devenir meilleurs. Et c'est justement peut-être en étant entourés de gens qui sont opposés à notre Seigneur Jésus-Christ que nous, catholiques, nous sommes obligés de devenir meilleurs. On vit dans un monde, par exemple, où de plus en plus, conserver la foi touche à l'héroïsme. Bon, eh bien, le bon Dieu veut qu'il y ait des héros, justement, dans son armée, et parfois permet, justement, que des bons catholiques soient constamment en contact avec des méchants pour petit à petit devenir la semence de chrétienté. Le sang des martyrs a été une semence de chrétienté, mais il faut que la patience et la charité de nos catholiques, justement, soient aussi une semence de chrétienté pour amener les autres vers le bon Dieu. Rappelez-vous, je donne toujours ce même exemple qui est extrêmement un des plus beaux qu'on puisse trouver. Ce protestant qui va voir le Saint-Curé d'Ars, c'est quand on lui demande, après, lorsqu'il rentre en Angleterre, ses amis lui demandent « Alors, qu'est-ce que tu as vu ?» Et il a répondu « Je suis allé voir un homme et j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu derrière l'homme. » Est-ce que les fidèles qui nous entourent, est-ce que les fidèles donnent toujours ce même exemple? Est-ce que quand ils agissent, quand ils agissent avec les fidèles qui n'ont pas encore tout compris ou avec des visiteurs qui n'ont pas encore tout compris, est-ce qu'ils pratiquent cette exquise charité? Ayez justement dans les chapelles où vous allez, ayez cette charité qui contamine justement les tièdes et qui peut contaminer aussi les mauvais dans le bon sens pour les amener à la foi. Ayez cette patience aussi. Combien de fois j'ai dû me hérisser par des fidèles qui justement faisaient un peu de zèle amer avec par exemple des gens qui venaient pour la première fois, qui n'étaient pas habillés correctement alors qu'ils venaient pour la première fois à la chapelle. Au lieu de se féliciter de voir des nouveaux fidèles qui venaient à la chapelle, en espérant qu'ils justement commencent à réutiliser les sacrements chez nous, eh bien ils se plaignaient tout de suite. Regardez comment il est habillé, regardez comment cette personne est habillée. Mais attendez, évidemment. Ah mais cette personne ne sait pas encore ses prières, ne sait pas même pas faire son signe de croix. Eh bien, vous allez lui apprendre. Vous voyez, donc cette vertu de charité est représentée par cette phrase. Donc, n'arrachez pas l'ivraie, ne déracinez pas en même temps que le blé, parce qu'on risque de la déraciner en même temps que le blé. Autre explication donnée par les pères. Le blé est déraciné lorsqu'on arrache l'ivraie, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont d'abord que de l'ivraie et qui deviennent ensuite du froment. Or, si on allait supporter avec patience ce qu'ils sont mauvais, on ne verrait jamais en eux ce changement admirable. Et si donc on les arrache, on déracine en même temps le froment, puisqu'ils devaient devenir froment si on les eût épargnés. Une belle phrase, bon, c'est la haute philosophie, mais c'est une très belle phrase en philosophie. Dans saint Thomas d'Aquin, il utilise souvent cette phrase en disant qu'il y a dans notre âme une puissance obédientielle à la grâce. Il y a une puissance, un pouvoir de devenir obéissant à la grâce du bon Dieu. Même si je suis un révolté, même si je suis un révolutionnaire, il y a toujours en moi une puissance à la grâce. Et même, chez encore une fois, chez le dernier des pécheurs, même celui qui n'est pas habité, il y a une puissance à devenir un jour membre de l'Église, de l'Église triomphante du ciel. Quand on voit devant nous des gens qui ne sont pas des catholiques, qui vivent comme des païens, malheureusement, pas ça qui manque autour de nous, il ne faut pas oublier que ces personnes ont en eux une puissance à devenir bons. Et que pour que cette puissance passe à l'acte, c'est ce qu'on dit en philosophie, pour qu'il y ait un passage de la puissance à l'acte, que de cette possibilité que ces personnes deviennent bonnes, elles passent justement à l'action même par laquelle elles vont devenir effectivement bonnes, eh bien souvent le bon Dieu utilise pour cela des instruments. Et cet instrument, ça peut être vous ou moi. Et si nous ne sommes pas le bon instrument que le bon Dieu a attendu pendant peut-être longtemps, que cette personne a aussi attendu pendant longtemps, eh bien cette personne ne se convertira pas parce que celui qui était là pour faire passer cette âme de la puissance à l'acte ne s'est pas présenté au bon moment. Donc attention. Voilà ce que disent ici les pères. Donc j'ai pas mis, parfois je donne le nom du père qui a sorti telle ou telle phrase, tel ou tel texte. Bon, je ne le mets pas tout le temps parce que les textes viennent de plusieurs pères. J'ai un peu mélangé les textes pour justement essayer de faire une synthèse de tout ce que j'avais lu dans saint Thomas d'Aquin, dans la chaîne d'or ou dans le père Thiriet ou dans Cornelius à Lapide. Dieu veut, disent les pères, il veut donc qu'on ne les arrache pas de cette vie, car en s'efforçant de faire périr les méchants, on s'exposerait à faire aussi périr les bons, puisqu'ils deviendront peut-être bons, ou à nuire aux bons eux-mêmes, puisque les méchants sont pour eux une occasion involontaire de vertu. Sans les méchants, il y a beaucoup de bons qui ne deviendraient pas très bons. Sans les persécuteurs de la foi, il n'y aurait pas de martyrs. Ce retranchement se fera donc bien plus à propos lorsqu'à la fin, ils n'auront plus le temps de changer de vie et que le spectacle de leurs erreurs ne pourra plus être pour les bons une occasion de progrès dans la vérité. C'est pour cela qu'il ajoute, laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson, c'est-à-dire jusqu'au jugement. N'oublions pas qu'ici, aujourd'hui, ici-bas sur la terre, nous pouvons avoir accès facilement à la miséricorde du bon Dieu. Mais au moment du passage du temps à l'éternité, Il n'y a plus de miséricorde, il n'y a plus que la justice. Donc il est juste, selon la loi divine, qu'une personne qui meurt en état de grâce aille au ciel après sa purification purgatoire. Il est aussi juste qu'une personne qui meurt en état de péché mortel comme ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ tombe en enfer. Donc la justice sera automatiquement mise en place par le bon Dieu lui-même au moment de la mort, c'est-à-dire au moment de la moisson, au moment du jugement. Il faut donc reprendre avec miséricorde ce qu'on peut corriger. Et ce qui est incorrigible, il faut le supporter avec patience, pleurer et gémir par un sentiment de charité jusqu'à ce que Dieu lui-même se charge de reprendre et de corriger et attendre jusqu'à la moisson pour arracher l'ivraie et pour jeter la paille au vent. Pleurer et gémir, encore une fois, c'est la miséricorde, jusqu'à ce que Dieu lui-même se charge de reprendre et de corriger. Donc ne prenons pas, faisons pas le travail du bon Dieu. Le bon Dieu peut juger l'intérieur des âmes, pas nous. Il est triste de voir très souvent, beaucoup trop souvent dans la tradition, des gens qui se prennent pour le bon Dieu, qui veulent condamner ici-bas à l'enfer, une condamnation que seul Dieu peut donner, pas nous. Alors attention, justement, ayons cette exquise charité. C'est encore une fois, on peut dire tout ce qu'on veut sur Mgr Lefebvre, mais c'est ce qui m'a le plus frappé chez Mgr Lefebvre, son exquise charité, surtout avec les petites gens. J'ai vu ça quand j'étais au Mexique, dans le fin fond du Mexique, dans des endroits où vraiment il n'y avait pas beaucoup d'hygiène et pas beaucoup de propreté. Et Mgr Lefebvre était dans ces milieux-là, il est venu plusieurs fois dans le sud du Mexique. Et Mgr Lefebvre arrivait à se mettre au niveau des gens qui parlaient, c'est extraordinaire. Il y a très peu de gens qui sont capables de ça. Donc Mgr allait parler avec des paroissiens, des paysans du sud de l'état de Oaxaca, complètement inalphabètes, ils se mettaient à leur niveau. Et le soir même, il sera à New York en train de donner une conférence devant une société tout à fait sélecte, au contraire, des gens d'une haute culture littéraire par exemple, de grande dignité par exemple de dans leur fonction politique, etc. Eh bien, ils se mettaient au niveau des gens qu'ils parlaient. Ils disaient les mêmes choses, mais avec des paroles complètement différentes. On sentait qu'il avait été missionnaire. Et c'est très triste, j'ai vu des prêtres, et c'est très triste, qu'ils sont incapables de se mettre au niveau des gens qui parlent. Ils font des catastrophes. On peut demander, disent les pères, on peut se demander pourquoi notre Seigneur ne commande pas de faire une seule botte ou un seul tas de toute livrée. Ce serait peut-être plus simple quand même. C'est peut-être à cause des différentes sortes d'hérétiques qui non seulement sont séparés du bon grain, mais qui sont encore séparés entre eux. On dit, et c'est vrai, on disait aux États-Unis, il y a autant de protestantistes que de protestants. Et c'est vrai. En France, on dit une autre chose qui est tout aussi vraie, que quand vous avez trois Français, ça fait quatre groupes. Bon, mais c'est vrai. Oui, donc cet esprit de division, hein, c'est le solvé coagula de la Révolution, cet esprit de division qui fait tellement de mal à nos âmes. Donc, essayons justement, en tant que catholiques, de participer justement à cette réunion des âmes en notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter l'erreur. L'erreur, elle est là. Si l'erreur est là, que les gens nous demandent ce qu'on pense de telle ou telle erreur, il faut dire c'est une erreur, c'est inacceptable. Mais il faut le dire avec charité, pour que justement les gens, en entendant cette charité, en voyant cette charité, soient tentés de changer de vie, de changer de propos. Donc, notre Seigneur a voulu exprimer par ses bottes d'ivraie les conventicules de chaque hérésie dont tous les membres sont unis entre eux par des liens communs. Or, ils sont liés ensemble et destinés au feu du moment qu'ils se séparent de la communion catholique et qu'ils commencent à former des églises particulières. Mais ils ne seront jetés au feu qu'à la fin des temps, bien que depuis longtemps ils soient réunis en bottes. Vous voyez, ça c'est très important de comprendre que même s'il y a une différence entre les différentes sectes, en fait elles sont toutes unies par la haine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ne faut pas juger sur les extérieurs, sur les apparences. Surtout quand on peut être parfois un peu impressionné par ces conventicules de, d'évangélistes qui se prétendent chrétiens, mais ils ne sont pas du tout chrétiens. Ils ne sont pas du tout chrétiens parce qu'ils n'acceptent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, ils ont certaines règles, certaines règles de morale, mais ils n'ont pas du tout la morale chrétienne, donc ils ne sont même pas chrétiens souvent. Ce n'est pas parce qu'ils disent on ne fume pas, no smoking, no gambling. Il y avait un troisième terme, j'ai oublié. C'était ce que disaient pratiquement toutes les sectes protestantes du sud des États-Unis quand j'y étais. No smoking, mais il ne faut pas fumer, on ne joue pas à jeu d'argent et on ne boit pas. Ça. No smoking, no drinking, no gambling. No smoking, on ne fume pas. No drinking, on ne boit pas. No gambling, on ne joue pas des jeux d'argent. Ils prêchaient ça tout le temps, très bien. Et puis à côté de ça, ils vivaient tranquillement avec la femme de leur voisin parce qu'ils acceptaient le divorce. Oui, donc c'est un peu une hypocrisie, c'est même complètement de l'hypocrisie. Cependant, préviennent les pères, s'il en était ainsi, il n'y en aurait pas un si grand nombre qui regretteraient leurs erreurs et les abjureraient pour rentrer dans la foi catholique. Contrairement à ce qu'on pense, il y a encore beaucoup de gens qui pensent à rejoindre la foi catholique. Le problème, c'est ce que je leur dis quand j'en ai qui viennent me voir. Eh bien, des non-catholiques, des païens qui pensent à rejoindre l'Église catholique, je suis obligé, malheureusement, maintenant, de les mettre en garde en disant, attention, vous avez besoin d'une double conversion. Première conversion, de comprendre que l'Église catholique est l'unique Église hors de laquelle il n'y a pas de salut. Et deuxièmement, comprendre où est l'Église catholique et que l'Église des Vatican II n'est plus l'Église catholique. Parce qu'évidemment, si quelqu'un se convertit à la foi catholique par une bonne retraite, par exemple, mais après commence à aller à la messe de l'Église de Vatican II, ou même avec la fraternité Saint-Pédis qui vont les pousser à reconnaître que François est leur Bergoglio et leur pape légitime, qu'est-ce que vous voulez, c'est une perte de temps. À ce moment-là, ils vont revenir à leurs erreurs passées. Donc il faut vraiment que les gens comprennent ce qui se passe. Ce n'est donc qu'à la fin que les bottes d'ivraies seront liées, afin que leur opiniâtreté ne soit point punie sans discernement, et que chacun d'eux soit puni d'une manière proportionnée à sa perversité. Les paroles suivantes, laissez-les croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson, nous font un devoir de la longanimité, la magnanimité, la grandeur d'âme, et nous recommandent la justice par celle qui termine, liez-les en bottes pour la brûler. Laissez-les croître un éloge jusqu'à la moisson, c'est la miséricorde. Liez-les en bottes pour la brûler, c'est cette fois-ci non pas la miséricorde, mais la justice. Et on voit bien qu'il y a les deux choses, justice et miséricorde. On pourrait presque aller jusqu'à dire que le bon Dieu nous demande de pratiquer la miséricorde. Et lui, il se réserve la justice. Il se réserve la justice à la fin des temps, au moment du jugement. Mais pour le moment, ici-bas, sur la terre, il nous demande de pratiquer la miséricorde. Attention, pratiquer la miséricorde, ça ne veut pas dire d'accepter l'erreur. Pratiquer la miséricorde, ça veut dire que les personnes qui nous voient agir doivent voir notre Seigneur Jésus-Christ qui agit derrière ce qu'on fait. Ils doivent entendre notre Seigneur Jésus-Christ qui parle derrière ce qu'on dit. Alors posons-nous la question, est-ce que c'est le cas? J'ai souvent regretté d'avoir été trop dur. J'ai pratiquement jamais regretté d'avoir été trop miséricordieux. Que la miséricorde est certainement une des vertus qui marque plus l'influence de la divinité. Et lorsqu'on est trop dur, on casse les âmes, on coupe les âmes de Dieu, et à ce moment-là, dans bien des cas, c'est absolument irrattrapable. Alors les pères sont demandé aussi ce que signifie le mot sommeil. Donc, au début de cette parabole du blé et de l'ivraie, il est dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Donc ça, c'est notre Seigneur et son Église, notre Seigneur Jésus-Christ et les âmes de chacun d'entre nous. Pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint. Donc que représente ce sommeil? Donc vous avez l'explication donnée par les pères de l'Église en bas de la page 23. Là, c'est Saint Jérôme et Saint Augustin. Le sommeil des hommes, comme le symbole de la négligence et du manque de soin de la part des évêques et pasteurs de l'Église. Là, il manque le verbe. Le sommeil des hommes est comme le symbole de la négligence et du manque de soin de la part des évêques et des pasteurs de l'Église. Et il est vrai que, malheureusement, si on en est là où on en est, dans l'apostasie générale des nations, ben, la première des raisons, certainement, c'est parce que ceux qui ont l'autorité à Rome n'agissent plus comme pape, mais comme révolutionnaire. Et la deuxième raison, c'est parce que les évêques de l'Église de Vatican II, au lieu d'amener les âmes vers le bon Dieu, ben, ils amènent les âmes au monde. Ils amènent les âmes au monde, au lieu d'avoir des églises dans lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ est publiquement reconnu et glorifié, eh bien, et adoré, eh bien, à la place de l'adoration de Dieu, dans le culte moderne, on adore l'homme et on a remplacé Dieu par l'homme. L'homme a pris la place de Dieu. Donc, ce sommeil représente la paresse, si vous voulez, des évêques et des pasteurs de l'Église qui ne font plus leur travail. Alors, évidemment, comme ils ne font plus leur travail, eh bien, le berger dort au lieu de garder le troupeau. Du coup, eh bien, le loup fait ce qu'il veut et vient prendre les agneaux parce qu'il n'y a personne pour l'empêcher de venir les prendre et les manger. On peut aussi comprendre ce sommeil comme l'image de la mort des apôtres que les hérétiques utilisent pour en profiter et répandre leurs malices et leurs hérésies. Que les pasteurs prennent donc grand soin de veiller sur leur troupeau. Et cette phrase, à mon avis, n'est pas simplement valable pour les prêtres. Attention, c'est vrai qu'elle est surtout valable pour les évêques et puis pour les prêtres, mais elle est aussi valable pour les parents. Que les pasteurs prennent donc grand soin de veiller sur leur troupeau. Les parents ont un troupeau, hein, c'est vos enfants, c'est la famille. Le père de famille qui est chef de famille, il a un troupeau dont il doit prendre soin. Il est pasteur. Il a donc, puisqu'il a, il a charge d'âme, il a donc un triple devoir, comme tous ceux qui ont charge d'âme. Devoir de magistère, devoir de ministère, devoir de gouvernement. Le magistère, c'est le devoir d'enseignement, d'enseigner le catéchisme, de vérifier que ses enfants connaissent leur catéchisme, comprennent leur catéchisme et aiment leur catéchisme. Le devoir de sanctification, c'est le ministère, de vérifier à ce que leurs enfants, ses enfants, utilisent surtout le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie, assistent à la Sainte Messe, apprennent à aimer la confession, aimer la communion, aimer la Sainte Messe, et le devoir de gouvernement pour les maintenir sur la bonne ligne qui mène au ciel. Donc n'oublions pas que, mes bien chers frères, les parents sont aussi des pasteurs, il n'y a pas que les prêtres. La page 24. Il y a beaucoup de choses qu'on lit les pères. Il y a certains versets, certaines parties des évangiles qui ont été beaucoup plus commentées par les pères de l'Église que d'autres. Page 24, en haut de la page. Au sens mystique maintenant, l'ivraie représente les hérétiques et les pécheurs, surtout ceux qui corrompent les autres par les discours et les mauvais exemples. Ça, c'est ce que dit saint Augustin, saint Jean Chrysostome et saint Grégoire le Grand. L'ivraie blesse le blé, l'étouffe, le tue, car elle lui enlève la nourriture pour l'affaiblir. Avec une faute d'orthographe, pour l'affaiblir et avant de le tuer. Et donc il faut faire attention à ça, à ce que les âmes dont nous avons la charge restent en bonne santé spirituelle. Si je laisse l'ivraie se développer dans le cœur de mes enfants, si je laisse l'ivraie se développer dans ma famille, eh bien le blé va s'étouffer, va devenir de plus en plus faible, les racines vont être incapables d'avoir leur nourriture spirituelle, et le blé va s'affaiblir et finir par mourir. Combien de familles catholiques j'ai vu du laisser aller au niveau vestimentaire, par exemple, au niveau de la pratique de la foi, au niveau de la pratique des amitiés entre garçons et filles, entre les amis, etc. Des parents qui laissaient un peu tout faire et qui ont laissé l'ivraie se développer dans le champ et l'ivraie a détruit le blé et tous les enfants ont perdu la foi. De même que l'ivraie, dit saint Jean Chrysostome, de même que l'ivraie ressemble au blé, l'habileté de Satan consiste à mêler à la vérité des erreurs qui lui ressemblent de façon à pouvoir facilement circonvenir le simple. Mais il n'y a pas une chose, une grande vérité philosophique que j'ai déjà expliquée souvent, à savoir que le mal absolu n'existe pas. Quelque chose ne peut pas être totalement à 100% mauvais. Parce que si quelque chose était mal à 100%, ça annihilerait lui-même, si vous voulez. Vous allez me dire, mais les gens me disent, quand j'explique ça, les gens me disent, mais le Lucifer est tout mauvais, à 100% mauvais, mais non. Dans Lucifer, il y a des choses bonnes, et c'est précisément parce qu'il y a des choses bonnes dans Lucifer que Lucifer est tellement dangereux. Lucifer, qu'est-ce qu'il a de bon? Il a la nature angélique, c'est un ange. La nature angélique, c'est quelque chose de bon. Il comprend les choses par intuition, c'est bien meilleur que de comprendre les choses que par abstraction, comme nous. Hein, le démon est un pur esprit. Hein, donc il a les qualités d'agilité, de subtilité, de toutes ces qualités, de ce qu'on appelle des corps, des purs esprits, des corps célestes, qui, ces purs esprits, et le démon, même s'il est devenu un démon, il garde ses qualités de subtilité, par exemple, ce qui lui permet d'aller extrêmement rapidement d'un lieu à l'autre, comme tous les anges. Bon, bien sûr, il n'a pas la liberté totale de faire ce qu'il veut, il est limité dans son pouvoir par ce que lui permet de faire le bon Dieu, hein. Mais attention, donc, lorsque la vérité est mélangée à l'erreur, lorsque l'erreur est mélangée à la vérité, elle est bien plus dangereuse que quand l'erreur se manifeste par elle-même toute seule, sans être mélangée à l'erreur, sans être mélangée, pardon, à la vérité. C'est lorsque l'erreur est mélangée à la vérité, on peut presque dire que plus l'erreur est mélangée à la vérité, plus il y a de vérité mélangée à l'erreur, plus cette erreur devient dangereuse. À partir du moment où il y a un mélange du bien avec du mal, ce n'est plus du bien. Il ne faut pas dire, mais dans ce cas-là, dans tel cas, par exemple, nous avons 95% de bien et 5% de mal. Mais si vous avez un objet qui contient, ou une chose, ou une personne, une âme d'une personne qui contient 5% de bon, 5% de mauvais, 95% de bon, on ne peut plus dire que cette personne, que cet objet est bon. Si vous avez une tarte aux pommes avec une goutte d'arsenic, 1% d'arsenic et 99% de bonnes pommes sur la tarte tout autour de l'arsenic, on ne peut pas dire la tarte est encore bonne parce qu'il y a quand même 99% de bonnes pommes et simplement 1% d'arsenic. Non, parce que le 1% d'arsenic fait que la tarte aux pommes devient mauvaise. Et je dirais, une tarte aux pommes qui ne contient qu'1% d'arsenic est bien plus dangereuse qu'une tarte aux pommes qui contient 99% d'arsenic et 1% de bonnes pommes. Parce qu'une tarte arsenic qui contient 99% d'arsenic et 1% de bonnes pommes, on voit tout de suite qu'elle est mauvaise. L'exemple que je donne tout le temps, quand je prêche ces exercices, quand j'explique les règles de discernement des esprits, une pomme qui est complètement pourrie de l'extérieur, parce qu'elle est toute flétrie, elle est toute pourrie, il y a des vers et des champignons qui poussent, qui sortent de la pomme, on voit qu'elle est pourrie, elle n'est pas dangereuse. Par contre, une pomme qui est apparemment encore en bonne santé, qui a une belle couleur, une belle peau bien jaune, bien rouge ou bien verte, et avec un petit vert qui la grignote à l'intérieur, cette pomme-là est bien plus dangereuse. Pourquoi ? Parce que le mal est caché. Et c'est le drame, justement, d'aujourd'hui. Quand les gens nous disent « Bergoglio, c'est l'antéchrist, tout est mauvais en lui », ben justement non, c'est précisément pour ça qu'il est tellement dangereux. C'est Bergoglio, un extérieur de douceur, un extérieur de fausse charité, un extérieur de gentillesse, si vous voulez, qui fait qu'il est extrêmement dangereux pour les hommes. Et beaucoup de gens sont détruits, leurs âmes sont détruites justement par le protestantisme, le naturalisme de Bergoglio, justement parce que ils ne voient plus que le bon côté naturellement parlant, ils oublient le mauvais côté spirituellement parlant. Je me rappelle, ça m'avait beaucoup frappé quand j'étais aux États-Unis, où il y a malheureusement d'énormes difficultés avec le nombre croissant de gens qui étaient affectés de sodomie, de vices contre nature. Mais une chose qui m'avait frappé, c'est que justement chez beaucoup de ces sodomites, il y avait une certaine gentillesse extérieure. J'avais un ami qui était pilote de ligne. J'avais demandé, je lui ai dit, mais est-ce qu'il est vrai ce que j'entends dire que parmi les stewards, pas les hôtesses de l'air, les stewards, je sais pas comment on dit ça en français, les hôtesses de l'air masculines dans les compagnies aériennes, est-ce que c'est exact que aux États-Unis surtout, ils prennent surtout les homosexuels? Il m'a dit oui, c'est parfaitement exact, parce que les homosexuels en général une gentillesse, une certaine compassion avec les clients un peu difficiles qui fait qu'on les prend en priorité. Vous voyez? Et c'est ça qui fait justement leur danger. Imaginez un sodomite qui a un caractère de cochon avec tout le monde, eh bien, il ne serait pas très dangereux parce que justement son caractère de cochon empêcherait les âmes de se faire contaminer par lui. Imaginez au contraire un sodomite qui est plein de gentillesse extérieure, il devient extrêmement dangereux. Et donc attention à ces choses-là. Donc je répète cette phrase de Saint Jean Chrysostome en haut de la page 24. De même que l'ivraie ressemble au blé, l'habileté de Satan consiste à mêler à la vérité des erreurs qui lui ressemblent de façon à pouvoir facilement circonvenir les simples. Donc plus la vérité est mêlée à l'erreur, plus l'erreur et la vérité sont mêlées ensemble de telle façon, surtout qu'on voit d'abord la vérité avant de voir l'erreur, plus cette erreur devient dangereuse. En effet, après les prophètes, disent les pères, sont venus les faux prophètes. Après les apôtres, les faux apôtres. Et après le Christ viendra l'antéchrist. Le diable ne peut qu'imiter et s'attaquer à ce qui existe. C'est pour ça qu'on appelle le singe de Dieu. Le diable ne peut qu'imiter et s'attaquer à ce qui existe. Il ne peut créer. Il agit seulement après que Dieu a créé, car sa grande joie est de détruire. Ayant vu croître une semence qu'il ne pouvait détruire, il aimait là la sienne. Donc c'est l'ivraie du démon qui est mêlé au bon blé de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que les hérésiarques se sont introduits dans l'Église, et une fois introduits, le démon n'a plus besoin d'agir, car ils ont pris racine, ils répandent leur poison qu'ils avaient dissimulé jusque-là. On voit très bien dans l'Église de Vatican II, les hérésiarques de l'Église de Vatican II ne cherchent même plus à se cacher maintenant. Même plus à se cacher. Et les gens sont tellement contaminés par cette fausse charité, parce que c'en est une, cette fausse charité des modernistes, surtout des prêtres modernistes dans l'église de Vatican II, et bien que quand ils sont en contact avec un prêtre catholique, ils vont dire mais qu'il est dur, vous prenez pour qui, vous n'arrivez pas à vous mettre au niveau des gens, et puis la soutane que vous portez vous coupe de tout le monde. Et en fin de compte, c'est totalement faux. Vous voyez? Mais Le démon, on voit très bien, utilise la fausse charité des hérétiques pour pervertir les âmes. Il y a une vraie charité. Donc, il faut à la fois la véritable charité et à la fois, je dirais, la patience avec les âmes. Ça arrive régulièrement d'avoir dans les retraites, parfois, j'en ai eu plusieurs, des gens qui sont venus faire les retraites et qui avaient d'énormes problèmes, de problèmes aussi parfois d'homosexualité, malheureusement. Eh bien, si quelqu'un, ça m'est arrivé, quelqu'un me téléphone en disant, vous savez, je voudrais venir faire la retraite. Est-ce que je peux venir la faire? Mais bien sûr, vous êtes le bienvenu. Monsieur l'abbé, je tiens à vous préciser, je suis un homosexuel. Mais écoutez, mon ami, si vous cherchez le vrai, je vous prends. Si vous avez la bonne volonté, vous me promettez de faire la retraite le mieux possible, vous me promettez de garder le silence, vous me promettez de bien assister aux conférences, de venir me voir tous les jours pour que je puisse être sûr que vous fassiez une bonne retraite, eh bien, prions pour que le bon Dieu vous éclaire pendant cette retraite et vous remette sur le bon chemin. Et j'accepte. Maintenant, bien sûr, si je vois que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux et qui ne cherche qu'à corrompre les âmes qui sont autour de lui, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. C'est la même chose, je vais donner l'exemple de la sodomie, mais je pourrais vous donner l'exemple d'autres péchés. Quelqu'un me dit, monsieur l'abbé, je voudrais venir faire la tête, est-ce que je peux venir la faire? Mais bien sûr, monsieur l'abbé, je vous préviens, je vis en concubinage depuis 25 ans avec quelqu'un. Mais vous êtes quand même le bienvenu, monsieur. Vous êtes le bienvenu. Bon, et je peux dire, j'ai parfois des gens qui viennent faire la retraite. Monsieur l'abbé, est-ce que je peux venir faire la retraite avec ma concubine? Ben, quand je fais des retraites mixtes, oui, je veux bien. Mais évidemment, je ne vous mettrai pas dans la même chambre, hein. Ça n'est même pas question parce que vous n'êtes pas mariés. Vous ne pouvez pas être dans la même chambre, mais vous êtes les bienvenus tous les deux. Et avec la grâce du bon Dieu, ben, j'espère que j'arriverai, avec la grâce du bon Dieu, à toucher votre cœur pour que vous puissiez faire tous les deux une bonne confession générale et régulariser votre situation si elle est régularisable, ou ben, vous séparer, ou vivre sérieusement comme frère et sœur dans certains cas, si la régularisation n'est pas possible. Il y a dans le troisième paragraphe de la page 24 une phrase importante des pères qui explicite ce que je viens de dire. Si notre Seigneur avait permis la destruction des hérétiques, il aurait déchaîné dans le monde entier des guerres implacables. Par cette patience, dit saint Jérôme, il leur donne le temps de se repentir. Il peut arriver que celui qui aujourd'hui est affecté d'erreur, demain revienne à la vérité sans face au défenseur. Ce qui paraît ivré aujourd'hui peut être froment plus tard. Et en l'arrachant, vous arracheriez donc du froment. Souvent, un autre exemple qu'on nous donne, qu'on nous met devant les yeux souvent, c'est l'exemple de l'esclavage. Lorsque l'Église catholique est arrivée à Rome avec Saint-Pierre, en fait, hein, Saint-Pierre est mort à Rome en 67. Donc, lorsque l'Église catholique est arrivée à Rome, est-ce que l'Église a pu supprimer l'esclavage en 5 minutes? Non, ça a pris des siècles. Il ne faut pas oublier que dans la société romaine, surtout à Rome, il y avait un nombre d'esclaves qui était absolument faramineux par rapport à pourcentage d'hommes libres. Je ne veux pas donner un chiffre parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais je pense que c'était de l'ordre du 1 pour 1000. C'est-à-dire pour 1000 esclaves, il y avait une personne libre. Donc, il y a quelques personnes libres qui avaient des milliers d'esclaves pour certains d'entre eux. Et l'Église a fini par éradiquer complètement l'esclavage. Mais ça lui a pris des siècles. Elle n'a pas pu le faire tout de suite. Et donc vous avez par exemple une épître de saint Paul, l'épître à Philémon, qui peut scandaliser les gens qui ne comprennent pas ces choses-là, où saint Paul demande au maître d'un esclave repenti, donc à Philémon, de reprendre son esclave repenti qui s'était enfui. L'esclave s'était enfui, l'esclave fugitif. Et il demande à son maître de reprendre son esclave avec douceur et sans le battre. Alors on pourrait dire, mais comment se fait-il, en écrivant une lettre comme ça, saint Paul, il soutient l'esclavage, mais il ne soutenait pas l'esclavage du tout. En fait, on voit très bien qu'après l'arrivée du christianisme dans la ville de Rome, des tas de maîtres, d'hommes libres sont devenus catholiques, et la première chose que faisaient ces hommes libres lorsqu'ils devenaient catholiques, c'était de rendre la liberté à leurs esclaves. Vous voyez? Et ça, évidemment, les hommes modernes ont un mal fou à comprendre ça, mais ils sont tellement imprégnés d'esprit révolutionnaire que c'est un scandale, il faut supprimer l'esclavage du jour au lendemain, mais c'est pas toujours possible. Si l'Église avait supprimé l'esclavage du jour au lendemain en arrivant à Rome, c'était la révolution complète, ça aurait été la destruction de la civilisation même. Et donc l'Église y est allée doucement. On voit la même chose au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, surtout avec les violences, les batailles constantes entre les guerres larvées, ou pas larvées du tout, qui existaient entre les différents membres de la noblesse, surtout au Moyen-Âge. Les chevaliers, les princes se battaient les uns contre les autres. Il y avait beaucoup d'abus. Mais l'Église, par sa charité, a réussi à supprimer tout ça, mais a mis des siècles à le faire. Elle a commencé par instituer, qu'est-ce qu'a fait l'Église en premier ? Instituer le repos dominical. Bon, il y avait un nombre très important, beaucoup plus qu'aujourd'hui, de fêtes chômées. Et pendant ces fêtes chômées, tous les dimanches et toutes les fêtes chômées, la guerre était interdite. Il n'était pas question, et l'Église a tué, était intraitable. Donc les roitelets qui se battaient les uns contre les autres, les princes qui se battaient les uns contre les autres, les ducs qui se battaient les uns contre les autres, etc. Eh bien, le dimanche, les fêtes d'obligation, il fallait arrêter la bagarre. Donc on ne se battait pas, parce qu'il fallait s'occuper du bon Dieu. Bon. L'Église a mis des siècles à ramener la charité. Vous voyez ? Elle l'a fait surtout par la chevalerie. Il y avait certainement au début du avant l'arrivée de l'Église, au début du Moyen-Âge, il y avait certainement pas mal de brutalité dans non pas dans l'éducation générale, mais de manque d'amour peut-être de certains hommes pour leurs épouses. Eh bien, par la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, l'Église catholique a ramené la charité dans les familles, a ramené la charité entre les parents, la charité entre les parents pour leurs enfants. Et l'Église a fait une civilisation chrétienne de gens qui sortaient de la barbarie. Il ne faut pas oublier qu'après l'écroulement de l'Empire romain, eh bien, c'était des barbares. Regardez Clovis avant sa conversion. Clovis avant sa conversion, rappelez-vous l'histoire du vase de Soissons. Et Clovis avant sa conversion, c'était pas un enfant de cœur. Bon, eh bien, pourtant, son épouse était Clotilde, sainte Clotilde, catholique. Fière, une sainte catholique. Bon, lorsqu'elle a été demandée en mariage par Clovis, elle savait très bien que Clovis était encore un barbare. Est-ce qu'elle a dit non? Elle a accepté de devenir son époux. Et elle a eu des vertes et des pommures, certainement. Notamment quand elle a réussi à obtenir que son premier enfant, dont je n'oublie le nom, le premier enfant de Clovis, sainte Clotilde, était un bébé, donc est arrivé, le premier bébé, et sainte Clotilde a demandé le baptême du bébé. Et Clovis, qui était encore un païen à l'époque, a accepté. Il a accepté que son premier enfant soit baptisé. L'enfant est baptisé, il meurt. Voyez un petit peu. Clovis était furieux, donc c'était le baptême qui avait tué l'enfant. Et bien que sainte Clotilde a continué de pratiquer la charité, et bien elle a fini par convertir son barbare de mari, et Clovis, la nuit de 496, est devenu le fondateur de la France catholique. « Cours à la tête, fière sicambe, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé », lui a dit Saint-Rémy. C'est ça qu'il faut beaucoup, beaucoup de charité, mes bien chers frères. Il y a de la ressemblance, disent les pères, entre l'ivraie et le froment. On pourrait facilement se tromper en faisant une séparation trop hâtive. C'est pourquoi notre Seigneur nous avertit de ne pas précipiter notre jugement dans les cas douteux et d'attendre le jugement de Dieu. Et le mélange des méchants avec les bons n'est pas sans utilité pour ceux-ci, dit saint Augustin. Ils seront exercés par eux, aussi excités par leur vue, à aller toujours au mieux. Dieu sait se servir des méchants pour sa gloire et pour l'utilité des bons. Tandis que les méchants font servir même le bien au mal, Dieu sait se servir même des méchants pour le bien. Dieu, dans sa toute puissance, est capable d'utiliser un mal pour obtenir un bien. Nous, on ne peut pas, lui, il peut, parce qu'il est Dieu. Donc, vous voyez, là, j'ai mis qu'une toute petite fraction des commentaires des pères, il y a des pages et des pages dans Cornelius à Pide, entre autres. Donc, n'hésitez pas à relire tout ça, même ceux qui ont un petit peu de courage, qui veulent s'attaquer directement à la chaîne d'or de Saint Thomas, allez-y, hein, en trop, la chaîne d'or de Saint Thomas, elle était traduite en français, vous pouvez l'avoir aux éditions Saint-Rémy, où il y a une douzaine de volumes, hein, c'est important. Eh bien, vous pouvez très bien, après avoir suivi ces cours, peut-être lire la chaîne d'or de Saint Thomas sur Saint Matthieu. Vous verrez, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas mis dans le polycopier parce que je ne peux pas tout mettre. Nous avançons dans le chapitre 13 de Saint Matthieu, chapitre 13, versets 31-32. Notre Seigneur leur proposa une autre parabole. Parle aux disciples. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais lorsqu'elle a cru, elle est plus grande que tous les autres légumes, et elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter sur ses branches. Et nous avions cette parabole dans l'un des évangiles il y a peu de dimanche, peu de temps. Donc, qu'est-ce que représente ce grain de sénevé? Enfin, il y a deux paraboles presque identiques. Donc, la deuxième, c'est celle de la femme qui a pris et mêlé dans 3 mesures de farine et 1 mesure de levain jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Donc, c'est la même idée. On va voir un petit peu ce que disent les pères sur ce sujet-là. Donc, le grain de sénevé, donc, représente évidemment l'Église catholique. C'est la graine de moutarde, on appelle ça aussi la graine de moutarde dans certaines traductions. Et c'est le symbole de l'Église catholique qui est toute petite et qui va devenir un arbre gigantesque sur lequel les oiseaux du ciel vont pouvoir venir habiter et faire leur nid sur les branches. Donc toutes les âmes vont pouvoir venir habiter dans cette église. Le grain de sénevé donc figure non seulement l'Église catholique, mais également la ferveur de la foi catholique, à cause de la vertu qu'on lui attribue d'expulser le poison, c'est-à-dire les dogmes pervers des hérétiques. La graine de moutarde était utilisée au Moyen-Âge surtout en cataplasme pour faire sortir les mauvaises humeurs du corps. Utilisée plusieurs moyens, mais un des moyens utilisés pour faire tomber la fièvre, par exemple, c'était d'utiliser des cataplasmes de graines de moutarde. Bon, ça va pas être très facile à supporter d'ailleurs, mais je ne sais pas si c'était très efficace à l'époque, mais en tout cas c'est ce qu'il faisait pour justement faire sortir les mauvaises humeurs de la maladie du corps et faire baisser la fièvre. La prédication d'évangile est la plus humble de toutes les doctrines, car au premier coup d'œil, elle n'obtient pas la croyance due à la vérité en prêchant un homme Dieu, un Dieu mort et un scandale, le scandale de la croix. Imaginez ce que ça a pu être pour les premiers apôtres, les premiers disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, les premiers prédicateurs. Il devait prêcher un homme Dieu. Déjà, c'est pas facile d'essayer d'expliquer à un musulman, par exemple, que Dieu a un fils et que ce fils va unir sa divinité avec l'humanité. Mais il sort le couteau, il vous tranche la gorge. Hein. Parce que pour eux, pour ces musulmans, nous sommes des polythéistes. Eh bien, non seulement on prêche un homme Dieu, mais en plus un Dieu qui va mourir dans son humanité sur la croix, qui va être traité comme le dernier des esclaves, crucifié, qui va être traîné dans la tombe et y rester pendant 3 jours. Et après, il va falloir expliquer que cet homme ressuscite parce qu'il est Dieu et qu'il prouve son union avec sa divinité justement par sa résurrection. Et là, il va pouvoir fonder l'Église après sa résurrection, avec l'ascension, la montée au ciel. Et donc, le christianisme, humainement parlant, on pourrait dire que le christianisme avait tout du mauvais côté. Hein, imaginez un peu ce que devait être de prêcher le christianisme dans un pays où justement, imaginez les premiers disciples, les premiers apôtres, les premiers missionnaires qui étaient envoyés dans les pays impossibles, non seulement avec des nourritures impossibles, des milliers de moustiques comme mètre carré, etc., des langues impossibles à apprendre, avec des hommes qui étaient en face d'eux, des peuplades en face d'eux qui étaient en général extrêmement violentes, avec le mépris complet de la femme. Et qu'est-ce qu'ils devaient prêcher ? Notre Seigneur Jésus-Christ et notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Eh bien, comment voulez-vous, humainement parlant, que ces païens se convertissent en ayant une telle prédication ? Ils ont péché, notre Seigneur Jésus-Christ s'est crucifié. Et j'aurais pu dire en face, mais c'est ça votre Dieu, un Dieu qui accepte de mourir ? Monseigneur Lefebvre nous disait tout le temps, j'ai souvent donné cet exemple, que quand il était en Afrique, il expliquait, quand il donnait le catéchisme dans la brousse, qu'il expliquait la toute-puissance de Dieu, Dieu tout-puissant, la justice de Dieu, aucun problème. Tous les petits noirs comprenaient, les enfants comprenaient parfaitement. Mais quand il expliquait la miséricorde du bon Dieu qui pardonne aux pécheurs repentants, les enfants éclataient de rire, en disant que ce n'était pas possible. Parce que pour eux, le pardon des offenses, ça avait toujours été amalgamé à la faiblesse. Un roi qui pardonne, c'est un roi faible. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est faible. Il ne voulait pas d'un roi faible. Et donc il fallait expliquer que cette faiblesse apparente de notre Seigneur Jésus-Christ en fait est une force. Humainement parlant, la semence de l'évangile est inférieure aux autres semences. On voyait très bien aussi, par exemple, dans les milieux, en Amérique latine par exemple, que j'ai beaucoup missionné, les protestants arrivaient avec des tas de... alors que l'Église catholique prêchait notre Seigneur Jésus-Christ, en face, ils arrivaient avec de l'argent. Ils achetaient des âmes avec de l'argent. Ils disaient aux gens, mais regardez, le protestantisme, c'est quand même nettement préférable. Oui, le protestantisme, vous pouvez accepter le divorce, les protestants acceptent tous le divorce. Donc c'était beaucoup plus facile. Imaginez un chef africain, dans la brousse d'Afrique, qui rencontre le missionnaire pour la première fois pour apprendre un peu à connaître cette nouvelle religion que prêche le missionnaire catholique. Et il a 4 femmes officielles puis toutes les concubines. Et le missionnaire lui explique la grandeur du mariage chrétien, la grandeur de la virginité, la grandeur de la virginité consacrée, la grandeur de l'indissolubilité du mariage chrétien, la grandeur de l'unité du mariage chrétien, un homme et une femme. Imaginez le pauvre chef africain, il dit, mais attendez, mais qu'est-ce que je fais de mes femmes et mes concubines? Moi, je ne peux pas vivre avec simplement une femme, il m'en faut une par jour, et une différente, s'il vous plaît. Et c'est pour ça que beaucoup de ces premiers missionnaires ont été martyrisés. Eh bien, le sang des martyrs a été une semence de chrétienté. Donc rapprocher cette doctrine de l'Église catholique des doctrines et des écrits des philosophes mondains, de l'éclat de leur éloquence, de leur discours étudié, vous reconnaîtrez combien la semence de l'Évangile est inférieure aux autres semences. Et notre Seigneur Jésus-Christ a pourtant envahi le monde entier, toutes les âmes. Donc ces branches de l'arbre évangélique qui sont sorties du grain de sénevé figurent la variété des dogmes sur lesquels chacun des oiseaux vient se reposer. Prenons donc nous aussi les ailes de la colombe et élevons-nous bien haut afin de pouvoir habiter sur les branches de cet arbre. Nous construire un nid au milieu des vérités divines et nous hâter de fuir la terre et de gagner le ciel. Donc les oiseaux qui s'élèvent vers le ciel, qui viennent nicher dans les hauteurs de l'arbre, puisque la graine de sénevé est devenue un grand arbre, pour que les oiseaux du ciel puissent venir habiter sur ses branches, et bien ces oiseaux qui montent vers le ciel représentent aussi les âmes qui abandonnent les bas-fonds du monde pour venir pénétrer dans les sphères célestes, pénétrer dans la divinité de l'Église catholique. Au contraire, donc, la prédication évangélique qui paraissait si peu de choses dans ses commencements, lorsqu'elle fut semée, soit dans l'âme des fidèles, soit dans tout l'univers, n'a point produit de simples plantes, mais s'est élevée jusqu'à la hauteur d'un arbre. Et sur les branches sont venus habiter les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les âmes des fidèles ou les vertus qui sont consacrées au service de Dieu. Le Seigneur se compare lui-même à ce grain de sénevé qui est d'un goût très, très piquant. Rappelez-vous, le grain de sénevé, c'est la graine de moutarde. Donc elle a un goût très piquant, la plus petite de toutes les semences, et dont la force augmente lorsqu'elle est broyée. Si vous mettez une graine de moutarde comme ça, comme telle dans votre bouche, sans l'écraser, vous ne sentirez pas la moutarde. Mais si elle est broyée entre vos dents, elle est écrasée entre vos dents, à ce moment-là, l'amertume, la force de la moutarde va se dégager, vous allez avoir du feu dans la bouche. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc, cet écrasement du grain de moutarde qui va donner toute sa force à la moutarde, c'est le symbole de la croix, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ a toujours été représentée aussi, c'est un des symboles du Moyen-Âge et même d'avant, un symbole du Moyen-Âge, à savoir le grain de moutarde qui est écrasé pour donner toute sa force. Ces branches de l'arbre, ce sont les apôtres, qui par la puissance du Christ se sont étendus sur toute la surface du monde pour lui donner un doux ombrage. C'est sur ces branches que toutes les nations de la terre viendront dans l'espérance d'y trouver la vie et un lieu de repos comme sur les branches d'un arbre, contre la violence des vents, c'est-à-dire contre les orages que soulève le souffle du démon. Donc c'est comme un chêne, si vous voulez, qui est au milieu d'un cours d'eau. Et il y a une inondation terrible, donc un glissement de terrain terrible, et tout tombe, tout part dans le torrent, toutes les pierres s'écroulent, la boue passe dans le torrent, qui écrase tout, qui enlève tout, qui écrase toutes les maisons, qui enlève toutes les maisons, et tout disparaît sauf le chêne. Le chêne reste là. Le chêne reste là, parce qu'il est fondé sur le roc, et ce roc c'était le Christ. Et ce chêne c'est l'Église catholique. Sur ces branches se reposent les oiseaux du ciel, dit Saint Grégoire. Et en effet, les saintes âmes, qui s'élèvent au-dessus des pensées de la terre sous les ailes des vertus, se reposent et fatiguent de la vie dans leur sainte conversation et dans les consolations dont elles sont la source. Vous voyez comme ces explications des pères de l'Église sont tellement belles. Je vous conseille beaucoup, je sais bien que ça vous demande un petit peu de temps, je vous conseille beaucoup à ceux qui écoutent ce cours, de pas simplement vous contenter de l'écouter, d'avoir le polycopié près de vous, c'est plus facile. Bon, je lis pratiquement l'intégralité du polycopié, donc si vous ne l'avez pas, beaucoup d'entre vous, je sais, m'écoutent dans la voiture, dans les embouteillages. Donc, même si je n'ai pas les polycopiés, je peux travailler quand même, mais je vous conseille quand même, après avoir assimilé une première fois ce cours, relire le polycopié. Vous avez tous ces textes magnifiques des pères de l'Église dans ce polycopié, donc relisez-le pour justement arriver à saisir toute la richesse. Alors, nous arrêtons donc, nous sommes au sommet de la page 25. Donc, prochain cours, si Dieu veut, mercredi prochain. Et nous allons terminer ce cours par une prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.